Bonjour à vous tous, frères et sœurs. Je vous souhaite tous un joyeux sabbat. J'espère que votre semaine a été agréable et je profite de l'occasion pour vous apporter les salutations chaudes de vos frères en Trinidad. Et je dois vous dire que Trinidad, les Trinidadiens sont vraiment énergétiques, ils ont beaucoup d'énergie, beaucoup de chaleur et beaucoup de couleurs. Et j'espère que vous aussi, vous avez passé une agréable fête, une agréable fête des pains sans levain, une joyeuse Pâques. Et c'est un grand privilège d'être avec vous ce matin. C'est un vrai bonheur de pouvoir vous saluer, de pouvoir vous parler, d'être avec vous, même si on ne se voit pas, je ne vous vois pas, mais je sais que là où vous êtes, vous me voyez. Et bon, le titre de mon sermon ce matin, c'est « Dieu prépare une couronne pour tous les membres de son corps ». Dieu prépare une couronne pour tous les futurs membres de sa famille. Et j'aimerais prendre du temps pour remercier M. Gignier pour sa sermonnette. Il y a beaucoup de points que M. Gignier a révélé dans sa sermonnette que, bon, c'était planifié pour mon sermon. Et Dieu, le chef suprême de l'univers, nous a appelés et il nous a fait des promesses. Et l'une de ces promesses, c'est qu'un jour, nous serons membres de sa famille. Lorsque nous pensons à une personne de la famille royale qui possède la couronne d'État impérial, la famille royale et la reine Élisabeth nous viennent immédiatement à l'esprit. Cette magnifique couronne en or, argent et platine est orné de 2868 diamants. Elle comporte également 273 perles, 17 saphirs, 11 émeraudes et 5 rubis. La couronne impériale contient également une variété de pierres précieuses. Frères, chaque jour, nous devons nous rappeler le but de notre appel. Et nous devons nous rappeler ce que nous sommes. Dieu nous a appelés, non pour joindre un club social, mais nous sommes en train d'être entraînés afin de remplir une tâche bien précise dans un avenir proche. Que sommes-nous? Reportons-nous maintenant à 1 Pierre au chapitre 2, lisons les versets 4 à 9. 1 Pierre au chapitre 2, verset 4. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous. Vous formez une maison spirituelle, agréable à Dieu par Jésus-Christ. Chers frères et sœurs, c'est ce que nous sommes et nous poursuivons. Je poursuis au verset 6. Car il est dit dans l'Écriture, voici je mets en Sion une pierre angulaire, choisie et précieuse. Et celui qui croit en elle ne sera point confus. Verset 7. L'honneur est donc pour vous qui croyez. Mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle et une pierre d'achoppement, un rocher de scandale. Verset 8. Il s'y heurte pour n'avoir pas cru à la parole. Et c'est à cela qu'ils sont destinés. Mais vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Chers frères et sœurs, ce que nous sommes une race sacerdotale, nous sommes un peuple acquis, nous sommes une nation sainte, afin que nous puissions devenir des victimes spirituelles, agréables à Dieu, par Jésus-Christ. Chers frères et sœurs, c'est extrêmement important que nous gardions ces choses dans nos pensées afin d'éliminer le péché de notre vie spirituelle. Il y a quelques semaines de cela, nous avions célébré la fête des pains sans levain. Mais la fête des pains sans levain qui symbolise de rejeter le péché dans notre vie, de nous débarrasser de l'orgueil. C'est pas seulement pendant 7 jours, ça c'est quelque chose que nous devons pratiquer chaque jour de notre vie. C'est quelque chose que nous devons penser à chaque heure, à chaque minute, à chaque seconde de notre vie. Et nous devons le faire jusqu'à ce que le Christ revient, ou bien c'est le moment pour nous de nous endormir. Parce que Dieu prépare une couronne pour tous les membres du corps de Christ. Chers frères et sœurs, alors que nous nous préparons à devenir membres de sa famille, ce que nous sommes maintenant, nous faisons face à des déboires, nous faisons face à des tribulations. Et parfois, c'est un peu difficile pour nous parce que nous sommes physiques, nous vivons dans un monde physique et tout autour de nous, nous avons le monde, nous avons notre vie, nos pressions charnelles. Mais nous devons penser à ce que vraiment ce que nous sommes. Nous portons-nous maintenant à 1 Jean au chapitre 3. Nous allons lire les versets 1 à 3. 1 Jean chapitre 3, verset 1. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, mais nous savons que lorsqu'il paraîtra, nous serons semblables à lui. Ici, il représente Jésus-Christ. Jésus-Christ qui est notre frère aîné, c'est lui qui a donné sa vie pour nous. Et nous devons façonner notre vie, notre caractère, selon son modèle. Il dit, parce que lorsqu'il paraîtra, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Et au verset 3, quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Chers frères et sœurs, c'est ce que nous sommes appelés. Nous sommes appelés pour devenir comme Jésus-Christ. Comme vous l'avez bien entendu dans la sermonette, Dieu veut partager avec nous son univers. Le Christ, lorsqu'il apparaîtra, lorsqu'il reviendra, nous serons des co-héritiers avec lui. L'apôtre Jean a pris son temps pour nous dire que ce que nous sommes n'a pas encore été manifesté. Chers frères et sœurs, pensez-vous vraiment à ce que vous êtes? Ah, je suis sûr que Si quand vous sortez, vous êtes dans la rue, quand vous allez vaquer à vos affaires, vous ne pensez pas que vous êtes futur membre de la famille de Dieu. Que lorsque le jour viendra, vous serez comme lui. Et si vous serez, c'est comme si votre nom est Jean, quel que soit votre prénom, votre nom est Jean, vos enfants seront des gens. Tous vos enfants légitimes seront des gens. Ainsi que Dieu, notre Père Céleste, veut que nous soyons comme lui et nous porterons son nom. Et comme je vous ai dit au début du sermon, Dieu est en train de préparer une couronne pour les futurs membres de sa famille. Mais pour recevoir cette belle couronne, nous devons garder les commandements de Dieu. Nous devons continuer à éliminer le péché de nos vies, construire notre caractère et endurer jusqu'à la fin. On ne peut pas se lasser, on ne peut pas abandonner, il faut pouvoir continuer, malgré les peines, malgré les souffrances que nous faisons face chaque jour dans notre vie. Reportons-nous à Romains au chapitre 8, verset 18. Romains chapitre 8, dans Romains chapitre 8, verset 18, nous encourage à continuer, à regarder sur le futur, non sur le moment présent, non sur ce qui se passe autour de nous. Nous devons nous converger sur l'avenir. Romains chapitre 8, verset 18. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Au verset 19. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. C'est vous, c'est moi qui sommes les futurs membres de la famille de Dieu. Si nous avons reçu notre appel avec joie, si nous nous sommes repentis de nos péchés, si après avoir reçu le don du Saint-Esprit, nous faisons de notre mieux pour garder une attitude positive, pour garder une attitude repentante, une attitude humble devant Dieu, à coup sûr, nous aurons une place avec Jésus-Christ. Et la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. C'est vous, c'est moi, comme je vous ai dit. Reportons-nous maintenant à Apocalypse au chapitre 1, verset 6. Apocalypse au chapitre 1, verset 6. Maintenant, c'est ce même Jésus-Christ, notre frère aîné, qui nous a aidés, qui a donné sa vie pour nos péchés, qui a payé l'amende de nos péchés. Et c'est lui maintenant qui nous a fait cette promesse. Et on peut commencer au verset 5. De la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu, son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle et des siècles. Amen. La Bible ne donne pas beaucoup de détails sur la couronne que Dieu prépare pour chaque membre du corps du Christ. Mais elle a mis l'accent sur ce que nous devons faire pour régner avec Jésus-Christ. Bon, ce matin, je vais utiliser une analogie pour vous aider à comprendre l'importance de pratiquer la justice, l'importance de continuer sur notre trajectoire jusqu'à la fin, de voir le plan de Dieu, de nous converger sur le grand tableau, le grand plan de Dieu. Veuillez vous reporter à Jacques, au chapitre 1, verset 12. Jacques, au chapitre 1, verset 12. Je vais lire directement de la Bible. Jacques chapitre 1, verset 12. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promis à ceux qui l'aiment. Heureux l'homme qui supporte la tentation, car après avoir été approuvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Chers frères et sœurs, alors que vous continuez à vous examiner quotidiennement, vous devez vous demander, est-ce que vraiment j'aime Dieu et son mode de vie du fond de mon cœur? Est-ce que je suis prêt à donner ma vie pour obéir au commandement de Dieu? Lorsque nous éliminons le péché de nos vies, nous montrons à Dieu combien nous aimons son mode de vie. Et comme tout offert, seuls les meilleurs diamants, perles, rubis, émeraudes et autres pierres précieuses sont utilisées pour construire la magnifique couronne de la reine d'Angleterre. Dieu a appelé les choses faibles et viles de ce monde. Et comme un maître bijoutier, il utilise le feu et la chaleur à travers des épreuves sévères pour modeler chacun de nous en quelque chose de grand, quelqu'un digne de recevoir une belle couronne, en construisant le caractère et en nous gardant purs, en examinant nos pensées, nos actions, nos désirs, nos attitudes, et en les contrôlant quotidiennement. Dieu fait référence au rubis. Il décrit le beau caractère de la femme vertueuse dans Proverbe 31. Veuillez vous reporter à Proverbe 31, chapitre 31, et lisons les versets 10. Proverbe chapitre 31, verset 10. Qui peut trouver une femme vertueuse? Car sa valeur est bien supérieure à celle des rubis. Mesdames, ceci ne s'applique pas seulement aux femmes mariées, mais aussi aux célibataires des congrégations, aux veuves et même aux femmes fiancées. Et chers frères, il n'y a pas de double standard en ce qui concerne Dieu. Les hommes aussi doivent rester vertueux. Vous savez, dans notre société, la femme qui tombe enceinte au mariage, lors du mariage, est considérée comme une femme libre. Elle doit porter le poids de la honte. On ne parle pas beaucoup de l'homme qui a joué un rôle dans cette situation. Spirituellement parlant, l'homme est le dirigeant. Il est le leader. Il doit avoir la force de caractère de dire non. Nous n'allons pas offenser Dieu. Nous allons attendre et faire les choses à la manière de Dieu. Ce qui devrait être une situation joyeuse et heureuse peut rendre les deux individus malheureux à long terme. J'ai découvert lors des recherches que cela pouvait être l'une des raisons de mariage malheureux menant au divorce plus tard. Dans sa tentative de cacher son erreur, la femme peut secrètement s'éclipser et avoir un avortement. Les deux personnes concernées peuvent avoir à faire face à des maladies sexuelles, sexuellement transmissibles, qui peuvent finalement conduire à la mort par le biais du cancer, du sida ou du virus de l'herpès, extrêmement douloureux et incurable. J'ai vu tout cela en travaillant dans la salle d'urgence. Frère, vous ne voulez pas transporter ces problèmes inutiles dans votre mariage. Reportons-nous maintenant à Proverbe chapitre 12. Proverbe au chapitre 12, lisons les versets 4. Proverbe chapitre 12, verset 4. Une femme vertueuse est la couronne de son mari, mais celle qui fait honte est comme la carie de ses os. Chers frères et sœurs, Dieu a créé le mariage et la famille. Et plus que tout être dans l'univers, il sait ce qu'il faut pour construire, pour avoir un mariage heureux. C'est pourquoi Dieu nous demande de mettre le péché hors de notre vie, et non seulement pendant les jours des pains sans levain, mais pendant toute notre vie. Parce que Dieu est comme un cher parent pour nous. Et aucun parent vraiment veut avoir ses enfants souffrir. Quelqu'un qui aime ses enfants ne veut pas les voir souffrir. Parfois, l'adversaire veut nous faire savoir que Dieu est un Dieu vraiment trop sévère et que Dieu veut que nous ayons une vie misérable. Alors, chers frères et sœurs, c'est du mensonge. Dieu veut que vous et moi soyons heureux. Le Christ a dit, je suis venu afin que mes brebis soient dans l'abondance et abondamment. Dieu veut que nous ayons l'abondance, la joie, le bonheur. Et je vous encourage, chers frères et sœurs, à aller attentivement au Proverbe 31 dans le cadre d'une étude biblique. Prenez votre temps et lisez, étudiez Proverbe 31. En utilisant une analogie, je vais utiliser le caractère comme les diamants et les autres pierres précieuses que Dieu pourra utiliser pour concevoir et créer une belle couronne de beauté pour vous. Rappelez-vous l'analogie. La couronne est spirituelle et est faite à partir du caractère. En raison de son caractère exceptionnel de la femme vertueuse, le Proverbe 31, c'est grâce à son caractère que Dieu peut utiliser des diamants, des rubis et d'autres pierres précieuses pour concevoir sa couronne de gloire spirituelle qu'elle recevra si elle est fidèle et continue à développer son caractère jusqu'à la fin. Le péché peut faire que les beaux diamants et les autres pierres précieuses s'abîment, s'émoussent et peuvent facilement se briser et se perdre. Tout homme aimerait avoir une belle épouse, comme celle que l'on trouve dans Proverbe 31. Mais rappelez-vous, chers frères, que vous aussi devez vous garder digne d'être béni par Dieu, comme une bonne épouse. Veuillez consulter le chapitre 19 des Proverbes. Nous portons à Proverbe chapitre 19. Nous allons lire le verset 14. Proverbe 19, verset 14. On peut hériter de ses pères une maison et des richesses, mais une femme intelligente est un don de l'Éternel. Et vous, messieurs, vous qui êtes mariés, vous qui avez une femme intelligente, vous pouvez partager ça, et parce que ça c'est un don de Dieu. C'est Dieu qui vous donne, c'est Dieu qui nous donne une femme intelligente, une femme qui nous comprend, une femme qui est prête à partager sa vie avec nous, qui est prête à nous aider. Vous savez, dans notre société actuelle, les hommes méprisent les autres hommes qui ne sont pas sexuellement actifs. Même certaines femmes méprisent les hommes qu'elles découvrent qui sont vierges. Mais comment Dieu considère-t-il ce type de comportement? Reportons-nous à 1 Corinthiens au chapitre 6. 1 Corinthiens au chapitre 6, nous allons lire le verset 18. 1 Corinthiens 6, 18. Et je lis. Fuyez la débauche. Quelque autre péché que l'homme commet, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à la débauche pêche contre son propre corps. Et un peu plus loin, au verset 19, l'apôtre Paul dit ici, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous n'appartenez point à vous-même. Au verset 20, car vous avez été racheté à un grand prix. Reportons-nous maintenant à 1 Thessaloniciens au chapitre 4. 1 Thessaloniciens chapitre 4. Nous allons lire les versets 3 à 5. 1 Thessaloniciens chapitre 4, versets 3. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de la débauche. Verset 4. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté. Verset 5. Sans vous livrer à une convoitise passionnée comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Chers frères et sœurs, c'est la volonté de Dieu que nous nous abstenions de toute immoralité sexuelle, que nous savons comment posséder notre corps qui est une vase, la vase de Dieu, de la sanctification et l'honneur. Rappelez-vous l'engagement que vous avez pris lors de votre baptême d'utiliser le Saint-Esprit de Dieu alors que vous vous efforcez d'éliminer le péché dans vos vies. Un homme qui n'est pas sexuellement actif peut être considéré comme étant faible selon les normes de ce monde. Mais croyez-moi, Jésus-Christ n'avait rien de faible en lui. C'est son caractère et son caractère seul qui nous donne la force de supporter toutes choses. Jésus-Christ a été persécuté à bien des égards et il comprend donc mieux que quiconque ce que l'on ressent lorsqu'on se fait insulter, rabaisser, maltraiter, non seulement mentalement et émotionnellement, et même cracher dessus. Reportons-nous à Matthieu chapitre 26. Verset 67. Au Matthieu 26, verset 67. Vous savez, parfois, quand nous faisons face à des épreuves, nous pensons que nous sommes les seuls. C'est facile de dire que bon, on est maltraité, on utilise des préjugés contre nous, on s'apitoie sur son sort. Mais le Christ a beaucoup subi. Il a été maltraité. Nous voyons ça dans Matthieu, chapitre 6, Matthieu 26, verset 67. Là-dessus, ils lui crachèrent au visage et lui donnèrent des coups de poing et des soufflets en disant, verset 68, Christ, prophétise, dis-nous qui t'a frappé. Vous voyez, il n'avait aucun respect pour le Christ Jésus-Christ, alors que Jésus-Christ, c'est lui qui a tout créé avec son papa. Le monde existe par lui. Et nous voyons ce même récit dans Marc au chapitre 15, verset 19. Marc, au chapitre 15, verset 19. Et il lui frappait la tête avec un roseau, crachait sur lui, et fléchissant les genoux, il se prosternait devant lui. Il se moquait de Christ. Aucun homme dans l'univers entier n'aurait pu endurer ce que Jésus-Christ a traversé. Alors que nous devons continuer à mûrir et à grandir spirituellement, nous voulons devenir comme lui chaque jour de notre vie, apprendre plus sa sagesse. Chers frères et sœurs, nous devons étudier assidûment la Bible. Nous devons faire de notre mieux pour développer le caractère saint et parfait de Jésus-Christ. Je ne sais pas ce que ressentent les autres, mais j'admire vraiment Jésus-Christ. Je l'admire et je veux lui ressembler davantage. Veuillez vous reporter à Éphésiens, chapitre 2, verset 10. Dans Éphésiens, au chapitre 2, verset 10. Car nous sommes son ouvrage et a été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Nous devons développer en nous l'attitude que Jésus-Christ a déployée pendant toute sa vie, pendant toute sa carrière. Et on parle de force de caractère. Jésus-Christ est capable de pardonner ses ennemis. Et vous, chers frères et sœurs, épouses, avez-vous pardonné vos maris pour les petites erreurs d'inattention qu'ils commettent? Comme le dit le vieil adage, n'allez pas au lit en colère. Et vous, Marie, pardonnez-vous votre femme les nombreuses erreurs qu'elle commet au quotidien? Vous mettez-vous tous les deux à genoux pour crier à Dieu et lui demander de continuer à bénir votre époux. Si vous êtes un homme, de bénir votre femme, et vous êtes une femme, de bénir votre mari. Demandez-vous à Dieu de sonder votre cœur pour vous assurer, pour vous aider à voir vos faiblesses, à vous assurer qu'il n'y a pas un brin de haine, aucune racine d'amertume dans votre cœur. Demandez-vous à Dieu chaque jour de vous purifier, de vous aider à vous voir comme vous êtes, comme vous l'êtes spirituellement. De vous regarder, de vous examiner sans regarder les fautes de votre conjoint. Vous savez, chers frères et sœurs, il est plus facile pour chacun de nous de scrutiner les autres, de voir les fautes chez les autres. Alors que pour nous, nous avons ce sentiment d'être juste, nous sommes justes à nos propres yeux. Vous savez, chers frères et sœurs, seulement vous pouvez vous examiner vous-même. Je ne peux pas vous voir, je ne peux pas examiner votre cœur. Seul Dieu sonde, c'est Dieu qui sonde les cœurs et les reins. Parfois, on peut regarder quelqu'un, on peut faire des idées, on peut avoir des sentiments, mais c'est tout. On est vraiment, on est borné. Il y a des gens qui pensent qu'ils peuvent examiner les autres. Il y a maintenant des gens qui, par exemple, même en regardant quelqu'un, ils vous disent et vous dit ce qu'il pense de cette personne. Alors que c'est le seul Dieu selon la Bible, Dieu dit, c'est moi qui sonde les cœurs et les reins. Et nous devons prendre garde à nous-mêmes. Et là, de ne pas juger les uns les autres. On ne peut pas changer les autres. On peut changer nous-mêmes. On peut travailler sur ses faiblesses, on peut travailler sur nos fautes, mais on ne peut pas changer les autres. Et parfois, on peut penser que on peut juger, on peut se moquer de Dieu. On peut parler à des gens qui a des faux semblants. Et des faux semblants, des, comme je vous ai dit tout à l'heure, qui sont justes à leur propre Dieu. Mais nous ne pouvons garder cela dans nos pensées. Reportons-nous à Galates. Galates chapitre 6, verset 7. Galates chapitre 6, verset 7. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Verset 8. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair, la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Et il ajoute au verset 9, ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne relâchons pas. Chers frères et sœurs, je suis ici pour vous servir de toutes les manières possibles. Mais le travail, c'est un travail vraiment acharné. Le travail que nous devons, chacun de nous, doit faire pour obtenir ces beaux diamants, ces rubis, émeraudes et autres pierres précieuses de cette belle couronne spirituelle que Dieu prépare pour nous. Ce n'est pas un travail facile. Le Christ lui-même nous a dit, nous devons nous efforcer d'entrer par la porte étroite. Non par la grande porte, le grand chemin. Parce que c'est un chemin, le chemin qui mène à la vie éternelle est un chemin vraiment étroit, un chemin qui est rocailleux, un chemin qui n'est pas facile et nous devons être violents. Et pour avoir cette couronne, pour recevoir cette couronne, chers frères et sœurs, nous devons être violents. Nous devons nous sonder notre cœur et nous devons avoir beaucoup de courage, chers frères et sœurs. Surtout quand le moment est venu d'admettre qu'on a tort. Et parfois on a fait des choses, on commet des erreurs. Et on a fait du tort aux autres. Mais nous devons avoir du courage pour nous demander de nous pardonner, pour demander le pardon. Et nous devons faire de notre mieux de ne pas être orgueilleux. Le Christ nous a donné un exemple. Si avant de présenter notre frère, nous savons que notre frère a quelque chose contre nous, nous devons laisser notre frère et aller nous réconcilier avec notre frère. Il ne nous dit pas que nous devons demander à notre frère de venir de s'excuser, mais c'est à nous, comme l'apôtre Paul l'a dit, autant que cela dépend de nous. Soyez en paix avec tout le monde. Jésus-Christ a donné l'exemple. Et comme je l'ai mentionné et plutôt dans le sermon, Jésus-Christ n'avait rien de faible. La plupart des gens dans le monde ont du mal à pardonner aux autres, surtout après avoir été faussement accusés. Et le problème existe aussi ici. Et dans l'Église, il faut du cran, de la force, du caractère comme je l'ai mentionné plus haut, et beaucoup d'humilité et de maturité spirituelle. Si quelqu'un a une faiblesse dans ce domaine, je vous encourage à faire une étude biblique sur la vie de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul est celui, c'est quelqu'un qui a tout laissé. Il a dit qu'il a regardé tout comme de la boue à cause de l'évangile de Dieu. Et avant son appel, avant que Dieu l'ait appelé dans l'église, l'apôtre Paul avait une grande place dans la société où il vivait. C'était un homme vraiment puissant, était un homme vraiment éduqué, mais il a dit, il a regardé tout comme de la boue à cause de l'évangile. Ce chef et ses soeurs, c'est ce même l'apôtre Paul, après avoir tout subi, après avoir souffert dans sa vie, dans 2 Timothée au chapitre 4, verset 8, dans 2 Timothée, chapitre 4, verset 8, alors qu'il savait qu'il allait s'endormir, que c'était son moment de laisser cette vie. Il a dit dans 2 Timothée, chapitre 4, verset 8. On peut commencer au verset 6 de Timothée, chapitre 4, verset 6. Car pour moi, je sers déjà de libation et le moment de mon départ approche. C'est que ça, il savait qu'il allait mourir. Mais au verset 7, notez cela. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Au verset 8, désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Chers frères et sœurs, c'est vraiment impératif pour vous et moi de converger nos pensées, de garder ces choses précieusement dans notre cœur. Chaque jour, de savoir que nous sommes en train de combattre. Nous sommes dans un combat. Mais ce n'est pas un combat physique, mais un combat spirituel. Ça, c'est le bon combat. Le combat que Dieu nous a appelé. Lors de notre appel, après notre baptême, après avoir reçu le don du Saint-Esprit de Dieu, le processus a commencé. Vous savez, les Israélites ont laissé l'Égypte. Ils avaient laissé l'Égypte. Dieu a fait des miracles pour eux. Mais malheureusement, pour eux, ils avaient l'Égypte dans le cœur. Ils voyageaient avec l'Égypte dans le cœur. Voilà pourquoi, à chaque moment qu'il y avait une tentation, à chaque moment qu'il y avait une épreuve, ils voulaient retourner en Égypte. Vous et moi, nous devons continuer notre course. Et ici, l'apôtre Paul a dit, il a achevé sa course. Mais il a gardé la foi. Nous devons garder la foi. Nous devons rester sur la trajectoire que Dieu a préparée pour nous. Nous devons avoir les yeux fixés sur le grand but. Nous devons avoir les yeux sur notre couronne. Nous devons travailler pour notre couronne. Comme l'apôtre Paul l'a dit, désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me le donnera dans ces jours-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui ont aimé son avènement. À tous nos frères et sœurs, à tous les membres du corps du Christ, à tous les futurs membres de la famille divine. Oui, Dieu donnera une couronne. Chers frères et sœurs, je suis certain que cette couronne spirituelle sera donnée à Joseph. Vous vous rappelez la vie de Joseph. Joseph est un homme qui a beaucoup souffert. Il a beaucoup subi. Mais il a resté fidèle. Il était resté fidèle à Dieu. Malgré les accusations, malgré les persécutions, il avait un esprit humble. Il avait une attitude obéissante à Dieu. Et je suis certain que la couronne spirituelle de Joseph comportera de nombreuses pierres précieuses, pleines de diamants, de rubis et d'émeraudes, parce que Joseph a beaucoup souffert de la part de ses propres frères à cause de la jalousie, de l'amertume qu'il ressentait à l'égard du manteau multicolore que lui avait donné son père. Ses frères l'ont jeté dans une fosse, préparant sa mort. Reportons-nous à Genèse au chapitre 37. Lisons l'histoire, un peu l'histoire de Joseph. Et je vous encourage, parce que je vais lire certaines parties, pas tout le chapitre, mais je vous encouragerai à lire tout le chapitre de 37, le chapitre 37 du livre de la Genèse. Genèse 37. Commençons au verset 1. Jacob demeura dans le pays de Canaan où avait séjourné son père. Voici la postérité de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître le troupeau avec ses frères. Cet enfant était auprès des fils de Bila et des fils de Zilpa, femmes de son père. Et Joseph rapportait à leur père le mauvais propos. Israël, c'est-à-dire Jacob, aimait Joseph plus que tous ses autres fils, parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse. Et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Verset 4, ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous, et ils le prirent en haine. Ils ne pouvaient lui parler avec amitié. C'est-à-dire que, malgré que Joseph n'avait rien fait, mais la jalousie, vous savez, ça existe. Ça existe dans notre société, ça existe dans la famille, ça existe dans les congrégations. Il y a parfois des jalousies, il y a des gens qui sont jaloux. Bon, je ne vais pas m'éterniser sur cela. Mais au lieu de tuer Joseph, ses frères ont décidé de le vendre comme esclave. En continuant dans du même chapitre, Genèse 37, nous sommes les versets 26 à 28. Ah, on peut commencer vraiment, ah oui, verset 26. Alors Judas dit à ses frères, que gagnerons-nous à tuer notre frère et à cacher son sang? Verset 27. Venez, vendons-le aux Ismaélites et ne mettons pas la main sur lui, car il est notre frère, notre chair. Et ses frères l'écoutèrent. Verset 28. Au passage des marchands Madianites, ils tirèrent et firent monter Joseph hors de la citerne. Et ils le vendirent pour 20 sicles d'argent aux Ismaélites qui l'amenèrent en Égypte. Ainsi, Joseph a été vendu par ses frères. Et si vous lisez tout le chapitre, vous saurez toute l'histoire. Dieu a béni Joseph. Et plus tard, il a été mis dans une position où il aurait pu se venger de ses frères. Mais il leur a pardonné. Voyez, et nous pourrions maintenant à Genèse au chapitre 50. Genèse, chapitre 50, nous allons lire les versets 15 à 21. Genèse, chapitre 50, verset 15. Quand les frères de Joseph virent que leur père était mort, ils dirent, si Joseph nous prenait en haine et nous rendait tout le mal que nous lui avons fait, et ils firent dire à Joseph, ton père a donné ce tort avant de mourir. Vous parlerez ainsi à Joseph. Oh, pardonne le crime de tes frères, leur péché, car ils t'ont fait du mal. Pardonne maintenant le péché des serviteurs du Dieu de ton père. Joseph pleura en entendant ces paroles. Verset 18. Ses frères vinrent eux-mêmes se prosterner devant lui et dirent, nous sommes tes serviteurs. Joseph leur dit, soyez sans crainte, car suis-je à la place de Dieu? Chers frères et sœurs, c'est une question que vous et moi devons nous poser chaque jour avant de réagir, avant de faire quoi que ce soit. Nous devons penser que suis-je à la place de Dieu? C'est Dieu qui est Dieu est en charge. Dieu est en charge. À lui la vengeance, à lui la rétribution. Bon, ok. Ici, Joseph, il faut voir l'attitude de Joseph. Joseph leur dit, vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nouveau. Soyez donc sans crainte. Je vous entretiendrai, vous et vos enfants, et il les consola en parlant à leur cœur. Vous savez, chers frères et sœurs, parfois il y a des choses qui se passent autour de nous que nous ne comprenons pas. Et la chose la plus aisée de faire, c'est de dire à Dieu, non ma volonté, non pas ma volonté, mais la tienne. C'est vraiment important pour nous, chers frères et sœurs, de laisser à Dieu de prendre sur la course des choses, de ne pas chercher nous-mêmes à contrôler les choses. Bien sûr, Dieu nous a donné la responsabilité, Dieu nous a donné de l'intelligence pour faire certaines choses, mais nous devons toujours chercher la volonté de Dieu en toutes choses. Chers frères et sœurs, vous et moi devons prendre notre appel au sérieux. L'Église de Dieu n'est pas un club social. Dieu a un destin fixe pour nous. Si nous sommes jugés dignes, nous recevons une couronne digne de régner avec le Christ, Jésus-Christ, notre frère bien-aimé, qui est le roi des rois. Et vous et moi, nous aurons cette grande opportunité de rééduquer les nations, de changer la course des choses et de recevoir notre couronne. Mais comme je vous ai dit pendant le sermon, le chemin est rocailleux. Nous avons beaucoup à faire. Nous avons encore beaucoup de travail à faire. Quelles que soient les circonstances, quels que soient les déboires, nous devons travailler, nous devons aller vers l'avant. Et nous ne devons pas laisser à qui que ce soit de dérober notre couronne. Reportons-nous pour un dernier verset à Apocalypse au chapitre 3, verset 11. Apocalypse au chapitre 3, verset 11. Je viens bientôt. C'est le Christ qui nous parle ici. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Chers frères et sœurs, travaillons. Travaillons acharnement. Travaillons durement, afin que personne ne prenne notre couronne.